Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour la Covidienne. Et ce soir, on se tourne vers les ponts de C et plus précisément vers la ressourcerie des biscottes. Vous connaissez sûrement ce lieu au sein duquel vous pouvez trouver de nombreux objets retapés et qui fait aussi beaucoup eh bien, pour l'insertion par l'emploi d'Angers et ses alentours. Et bien évidemment, comme bon nombre de structures, la ressourcerie est mise à mal par la crise sanitaire. Sarah, pour en savoir plus, s'est entretenue avec Benoît Akawi, directeur de la ressourcerie des biscottes. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Très bonne émission à toutes et à tous.
Si vous habitez près d'Angers, vous connaissez sûrement. Dans un grand entrepôt au pont de C se cache un endroit où les objets retrouvent une deuxième vie. En place depuis 2012 et avec 2000 visiteurs par semaine, c'est de la ressourcerie des biscottes dont on va parler. La crise sanitaire la met en péril et Benoît Akawi, son directeur, est avec nous pour en discuter et la préserver telle qu'elle. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors, on va parler ensuite de la situation actuelle, mais j'aimerais d'abord faire un petit point historique. Vous êtes directeur depuis 2012 à la ressourcerie, qui se trouve au pont de C, mais pourquoi des biscottes ?
Ah, parce qu'on est installé dans une ancienne fabrique de biscottes, qui appartenait au groupe Pasquier. L'usine de biscottes, elle existe toujours, on la voit quand on arrive sur Brissac. Simplement, du coup, au pont de C, les locaux étaient vacants. Et c'est un groupement d'associations qui s'appelle Entreprendre pour la solidarité qui a décidé d'acheter cette friche industrielle avec l'objectif d'y créer des emplois pour des personnes qui n'en ont pas.
Vous fonctionnez en récupérant des objets, des meubles de particuliers. Pouvez-vous nous expliquer le circuit d'un objet dont on ne voudrait plus, qui se trouve dans notre garage et qui irait jusqu'aux mains d'un acheteur ou d'une acheteuse ?
Bah oui, volontiers. Alors la plupart du temps, quand les gens appellent, on leur dit qu'on prend tout type d'objet qui est en bon état. Et il y a principalement trois moyens de nous le confier. C'est possible de le déposer directement à la ressourcerie en se déplaçant, si on peut le mettre dans sa voiture ou si c'est pas trop encombrant. C'est possible de le déposer aussi à la déchetterie, parce que dans les déchetteries, il y a des conteneurs dédiés au réemploi des objets. Les objets en bon état ont une place en déchetterie, et en fonction des conteneurs, soit Emmaüs, soit la ressourcerie vient vider le conteneur, on ramène les objets à la ressourcerie pour les valoriser. Et puis, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou parce qu'elles sont trop âgées, ou parce que ça nécessite de l'aide ou de la manutention, elles peuvent solliciter une prestation de collecte à domicile ou sur le site de l'entreprise. Et c'est une prestation qui est payante à partir de 10 euros.
La ressourcerie, c'est 18 à 22 tonnes d'objets collectés chaque semaine. Combien trouvent une deuxième vie ?
Alors, c'est même un peu plus que ça en ce moment. Après le confinement, on est même monté jusqu'à 35 tonnes d'objets collectés chaque semaine. Et en ce moment, en moyenne, on est autour de 25 tonnes d'objets par semaine. Alors, la question du réemploi, c'est une bonne question. Globalement, par le magasin, il y a entre 50 et 60% des tonnages collectés, des objets collectés, qui trouvent une seconde vie en réemploi.
Là, en ce moment, est-ce qu'on peut toujours venir déposer des objets à la ressourcerie, même avec la crise sanitaire ?
Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, il y a, les règles sont les mêmes qu'en déchetterie et que partout, d'ailleurs. C'est le port du masque est obligatoire. Et simplement, tous les matins, du mardi au samedi, c'est possible de déposer des objets. Et puis les après-midi, quand le magasin est ouvert, mardi, mercredi, vendredi et samedi après-midi, le point de réception des dons fonctionne. C'est possible de déposer soi-même. On encourage les personnes à préparer leur dépôt en regroupant dans les mêmes cartons la vaisselle, dans un autre carton les jouets, les bibelots. Enfin, en gros, par thème, ça va vous faire gagner du temps quand vous déposez les objets.
Aujourd'hui, vous avez 66 emplois, dont 52 en parcours d'insertion. On va revenir là-dessus. Mais vous avez publié une vidéo sur votre site. Dans cette période de crise sanitaire, vous devez être en sous-effectif. Comment ça se passe ?
Ce qui s'est passé, surtout au mois de novembre, c'est que le magasin a été fermé. On faisait l'objet, comme tous les commerces non essentiels, d'une fermeture administrative. et que pendant quelques jours, on a essayé d'organiser le travail autrement, mais assez rapidement, si le magasin est fermé et qu'on continue de collecter, on a un problème, c'est que les objets rentrent mais ne sortent pas. Et au bout de, enfin du coup, le 10 novembre, j'ai dû réunir l'ensemble des salariés pour leur dire que nous ne pouvions plus collecter les objets, que nous ne pouvions plus en vendre et que nous activions le chômage partiel. Et alors, ce n'est pas tant du sous-effectif que vraiment une peine, une double peine pour nos salariés qui sont en parcours d'insertion, qui déjà ont connu le chômage de très longue durée, qui enfin retrouvaient un emploi, étaient motivés pour se lever le matin et travailler, développer des compétences, et à qui on dit finalement restez chez vous.
Justement,
c'est ça vraiment la situation qui s'est passée au mois de novembre.
Et justement, en quoi consiste ce que vous appelez le réemploi solidaire et donc ce parcours d'insertion ?
Alors en fait, il y a deux approches. Le parcours d'insertion à la ressourcerie, comme dans beaucoup de chantiers d'insertion, c'est une étape de vie professionnelle dont l'objectif c'est que ce soit comme un tremplin qui permette de rebondir vers un autre métier. Les gens ne sont pas embauchés en CDI de manière indéfinie à la ressourcerie. C'est une étape pour faire le point sur sa situation personnelle et sociale, familiale. Parmi les raisons qui fait qu'on est au chômage ou parmi les conséquences de l'absence d'emploi, la situation personnelle s'est bien délitée, bien abîmée. Il y a besoin de faire un point sur les questions de logement, de santé, même d'addiction ou de situations familiales, conjugales qui peuvent être des fois complexes et qui empêchent d'être vraiment disponible pour chercher un emploi ou se former. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment pour préparer l'avenir de nos salariés. Tous les salariés en parcours d'insertion à la ressourcerie sont en formation. On pourrait dire par certains côtés que la ressourcerie est une entreprise école et nous diplômons quasiment la moitié de nos salariés. Pour certains, c'est même le premier diplôme de leur vie. À l'embauche, 9 salariés sur 10 n'ont pas de diplôme ou un diplôme inférieur au bac. Et malgré l'expérience acquise sur le lieu de travail, des fois, au moment du recrutement, ça pèse pas lourd face à d'autres candidats.
Ce diplôme, comment est-ce qu'il est officialisé en fait ? Qui le valide ?
Alors, c'est pas nous. Nous, on prépare les salariés. Alors, à partir de formations en interne, à partir de l'expérience acquise sur le support de travail, quand on utilise un chariot élévateur ou quand on conduit un véhicule utilitaire léger, quand on accueille des clients sur un poste de caisse, ce sont des situations de travail qui sont très professionnalisantes et qui permettent de développer des compétences qui vont être transférables dans leur futur métier. Mais c'est un organisme certificateur externe avec un jury qui vient une à deux fois par an pour rencontrer les candidats qui sont prêts et qui postulent et qui passent du coup une épreuve. Et ce titre, ce certificat, c'est pas un certificat made in ressourcerie des biscottes, c'est un certificat national de qualification professionnelle.
Et donc ce tremplin qui est le réemploi solidaire et qui permet d'acquérir beaucoup de compétences pour ensuite trouver une formation ou un métier, c'est une formation aussi à la ressourcerie. Et comment est-ce qu'elle se passe concrètement ?
Alors là, quand un nouveau salarié arrive, la première chose c'est que, c'est une étape pour se poser et reprendre le rythme de la vie professionnelle. Tous les salariés de la ressourcerie ont comme point commun d'avoir plus de 2 ans, en moyenne 4 ans de chômage, et parfois pour certains de ne jamais avoir travaillé. Par ailleurs, d'autres ont déjà connu la vie professionnelle, ont déjà beaucoup travaillé, mais ont connu 2, 3, 4 licenciements économiques parce que, pas de chance, ils ont travaillé dans des entreprises qui n'ont pas pu durer. Donc c'est déjà une étape d'adaptation au poste, de découvrir un nouveau métier. Et les gens sont embauchés alors même qu'ils ont envie de travailler, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas toujours un projet très clair. Donc certains vont découvrir la vente, d'autres la logistique, d'autres le tri ou la réparation des objets. Et puis au bout de quelques mois, quand la situation personnelle, familiale, sociale a été un peu stabilisée, avec l'aide notamment de nos travailleurs sociaux, on va engager le parcours de formation où là le sujet c'est pour un certain nombre. Plus d'un tiers de nos salariés ont besoin de consolider leurs compétences sur des choses très basiques, lire, écrire, compter, sortir de l'illettrisme, mais aussi utiliser l'ordinateur. Par exemple, aujourd'hui, on peut être cariste, mais si jamais on ne sait pas servir d'un terminal électronique, on ne sera jamais embauché dans le secteur de la logistique. Donc du coup, on va former nos salariés à l'utilisation du matériel informatique, à l'édition de code-barres, par exemple, sur des machines spécifiques, pour gérer une traçabilité, et c'est autant de compétences qui seront utiles à la fois au futur métier de nos salariés et à la validation du titre professionnel.
Et comment ces personnes vous contactent? Comment elles postulent?
Alors pour candidater à la ressourcerie, en fait, on ne prend pas de candidature en direct. Moyennant quoi, sinon, en fait, on aurait trop de candidatures. Il faut que ça passe par un travailleur social ou par Pôle emploi. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui vont vérifier que le candidat correspond bien aux personnes parmi les plus en difficulté d'accès à l'emploi. Dit autrement, parfois, pour résumer, hein, mais un jeune qui sort de l'école, il connaît une situation de chômage, mais c'est pas pour ça qu'il relève du dispositif du chantier d'insertion.
Pour revenir à la situation actuelle, la trésorerie de la ressourcerie est quasiment partie. Vous avez lancé une cagnotte d'urgence, 3 mois pour reconstituer une trésorerie saine, 150 000 euros. Vous êtes à environ 14 000 euros aujourd'hui. Comment est-ce que vous appréhendez cette collecte? Et 150 000 euros en 3 mois, c'est possible selon vous?
Alors oui, c'est possible. C'est un peu notre Vendée Globe à nous, hein. C'est une course contre la montre. C'est sûr que 16 semaines de fermeture administrative du magasin, les deux confinements, plus le protocole sanitaire dans le magasin qui ralentit la fréquentation des clients. Donc, comme on est obligé de limiter à 50 personnes dans le magasin, il y a moins de gens qui viennent, tout simplement. Et du coup, il y a mécaniquement moins de chiffre d'affaires. Alors, c'est ce qu'a fait qu'on a consommé notre trésorerie, notre réserve, quelque part, et qu'on a besoin de la reconstituer. Le défi, il est conséquent. Le défi, globalement, c'était 300 000 euros. Alors, on peut le réduire un tout petit peu, parce que comme le magasin a pu rouvrir en décembre, le chiffre d'affaires qui est fait en décembre, c'est autant de gagner. Mais ça, c'est pas tout, pas du tout. Et que vous évoquiez, à peu près 14 000 euros, c'est les dons que nous avons reçus sur la plateforme qui est en ligne. Il y a un certain nombre de dons qui nous sont arrivés directement, par chèque, ou qui nous ont été apportés, ou qui sont des promesses de dons de personnes qui nous ont dit, pour cette année 2020, je peux pas faire un don, mais je le ferai en 2021, tout début janvier. Et notre objectif d'ici fin janvier, c'est d'avoir trouvé maintenant 100 000 euros supplémentaires, parce que à travers les dons qu'on a déjà acquis, à travers des exonérations de charges qu'on a pu obtenir, et des subventions nouvelles qui nous ont été versées, et encore récemment par l'ADEME et l'agglomération Angevine, globalement, nous avons trouvé 160 000 euros qui nous permettent de consolider déjà la trésorerie. Et cette solidarité des collectivités, des entreprises, des particuliers à tous les niveaux, c'est ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Du coup, on est à peu près 60% de notre objectif, même un peu plus que ça, 70%. Et l'objectif d'ici fin janvier, maintenant, c'est de finir de trouver à peu près un peu moins de 100 000 euros.
Le vendredi 11 décembre à 18h, vous avez organisé un téléachat solidaire avec l'Université d'Angers. En quoi consistait-il et qui a organisé ça?
Alors le projet, c'était de donner un autre éclairage de cette dynamique collective. Les organisateurs, c'est la ressourcerie des Biscottes et l'Université. Et pourquoi on organisait ça? Parce que l'Université, sur le mois de décembre, organisait un Giving Tuesday, un grand événement de solidarité. Et la ressourcerie était dans une logique d'appel aux dons. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit, mais il ne faut pas que les solidarités s'opposent, s'excluent l'une et l'autre. Au mois de décembre, il y a aussi le Téléthon, il y a aussi des appels aux dons des Restos du Cœur et sur plein de thématiques. Il ne faut pas que ce soit l'un ou l'autre, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ensemble pour que finalement tout le monde soit gagnant. Et même d'ailleurs, si la ressourcerie va mieux, la ressourcerie elle a aussi une capacité à faire circuler la solidarité. Et on dit parfois, à l'interne des équipes, on dit il ne faut pas que la ressourcerie soit le destinataire final du don, mais si la ressourcerie peut aider d'autres gens, on le fera. C'est comme ça qu'est née un peu cette idée-là. Et il y avait un troisième élément, c'était que, habituellement, au mois de décembre, il y a les galeries recyclettes, qui est un grand événement avec l'ensemble des structures solidaires du réemploi, organisé par l'IRESA, mais pour des raisons de Covid, cet événement ne pouvait pas être organisé. On avait quasiment 100 mètres cubes de matériel, d'objets qui avaient été stockés, préparés pour cette vente-là, et dont on voyait bien que, vu que l'événement était annulé, on ne pourrait pas le mettre en vente. Donc on a mis ces objets en vente sur le click and collect, sur la boutique en ligne de la ressourcerie, qu'on retrouve sur le site internet de la ressourcerie, et on s'est dit, allons plus loin dans l'innovation. On a été la première structure du réemploi en France à organiser pas seulement une boutique en ligne, ce que beaucoup ont fait, mais aussi du coup un événement en live sur Facebook, avec la contribution des moyens audiovisuels de l'université, qui était à la fois un événement de type téléachat, c'est-à-dire pour donner à voir les produits, les mettre en vente sur le site internet. Et on a vendu quasiment 200 objets en 2 heures, ce qui a permis de collecter à la fois un chiffre d'affaires pour la ressourcerie, des dons pour la ressourcerie, des dons pour l'université. Et on s'était donné comme objectif, si on atteignait un certain nombre de paliers, que grâce au chiffre d'affaires créé, la ressourcerie pourrait être solidaire du défi du fonds de solidarité de l'université. Et nous allons maintenant pouvoir équiper, grâce aux dons que nous avons reçus, la totalité d'une chambre d'étudiants avec tout le nécessaire, c'est-à-dire pour dormir, pour manger et pour travailler.
Alors, il faut savoir que ça s'est passé en live sur Facebook et que le live est toujours disponible. Je dis ça car même s'il est trop tard pour participer au téléachat, le regarder vaut vraiment le coup car il y a eu un vrai travail de mise en scène, fausse publicité, présentatrice, comptoir, un vrai téléachat comme on aime. Quelle charge de travail a nécessité ce téléachat ?
Oh, mais c'était complètement énorme et même disproportionné. Mais c'était par contre très dynamisant et ça a fait l'objet aussi de plein de belles synergies et de solidarité. Il faut remercier les étudiants et les enseignants qui se sont mobilisés par exemple sur les fausses publicités. L'équipe de l'université qui s'est rendue disponible avec des moyens dont on ne dispose pas, nous là à la ressourcerie. Et même à la ressourcerie, bon, il faut reconnaître que la vente en ligne, c'est pas dit qu'on arrive à le faire durer l'année prochaine, parce que ceux qui ont pu aller sur la boutique de la ressourcerie voient bien que quand on met en ligne des objets, au bout de 2 heures, quand les objets sont vendus, tout le stock est épuisé. C'est pas comme si on était une boutique avec du stock en quantité, et quand on met un sapin en ligne, on en a qu'un seul exemplaire, quand il est vendu, ça fait épuisé. Alors que si jamais on était un commerce habituel, on dirait, on a 150 sapins, et puis tant que les 150 sapins sont pas vendus, un par un, on peut les acheter. Là, à chaque fois, il faut prendre en photo, il faut mettre en ligne, il faut faire une description. C'était un travail qui a aussi mobilisé des bénévoles autour de la ressourcerie et des membres du conseil d'administration. Et vraiment, c'est un travail, on peut dire vraiment la solidarité, les synergies étaient vraiment mises en œuvre et on se sent vraiment chanceux de tout ce soutien. Et puis, sur le chemin, on a eu aussi l'occasion d'être rejoint dans cette aventure par l'illustratrice angevine Matou.
Quel a été le travail de Matou dans l'histoire de la ressourcerie actuelle ?
Eh ben, Matou nous a fait le cadeau de répondre à sa manière à l'appel à l'aide que j'avais lancé en novembre en éditant une illustration, un dessin qui est vraiment magnifique et qui est sur le thème « Plus fort ensemble, stronger together » et de nous céder les droits de cette illustration pour qu'on puisse l'éditer en poster, en carte de vœux. Et vendre cette papeterie, on pourrait dire ça comme ça, ces objets, au profit de la ressourcerie des biscottes. On peut retrouver ces objets sur le site internet de la ressourcerie et sur la boutique en ligne, boutique.ressourceriedesbiscottes.fr.
Vous prévoyez d'autres événements dans les semaines qui suivent ou vous aimeriez en prévoir ?
Alors là, la suite, c'est ce qu'on aimerait bien, c'est que la vie reprenne son cours normalement. C'est-à-dire un magasin qui est ouvert, et on a fait le choix depuis le mois de décembre d'être ouvert sur des horaires encore plus larges que d'habitude, c'est-à-dire le mardi après-midi, le mercredi toute la journée, le vendredi et le samedi aussi toute la journée, et que déjà on arrive à retrouver un cycle de vie normal, c'est-à-dire où il y a autant d'objets qui rentrent que d'objets qui sortent chaque semaine, parce que cette année 2020, ça a été du stop and go, ça a été des disproportions très fortes entre la collecte et la vente, et il va falloir déjà qu'on fasse du vide dans l'atelier qui est trop trop rempli. Et ce serait ballot de mettre ces objets en déchetterie alors que ça peut répondre aux besoins des engins.
Quels enjeux se cachent derrière la mise en difficulté de la ressourcerie au-delà du financier ? Il y a une énorme dimension humaine derrière, surtout dans cette période et pour des personnes qui étaient déjà isolées du marché de l'emploi et donc parfois de la société, malheureusement, car qui dit isolé de l'emploi dit parfois exclusion.
Ben oui, c'est tout à fait vrai. Alors il y a deux aspects. Hein. Il y a vraiment si la ressourcerie n'arrive pas à son objectif de trésorerie en fin janvier, ça veut dire qu'il faudra réduire la masse salariale. Actuellement, on est 66 salariés. Il y a 52 salariés en parcours d'insertion. C'est pour les salariés en parcours d'insertion qu'il faut que nous soyons inquiets parce que un encadrant, un comptable, un directeur, bon, ça peut retrouver du travail d'une manière ou d'une autre. Par contre, un salarié en parcours d'insertion, quand il obtient une place enfin dans une structure d'insertion, quelle qu'elle soit, c'est une aubaine, c'est une chance qu'il y a plus de personnes qui cherchent un emploi que de places dans les structures d'insertion. Et puis l'autre aspect, c'est que s'il n'y a pas d'emploi, les salariés sont renvoyés chez eux. Et ils sont nombreux, les salariés à la ressourcerie, qui nous disent « Mais moi, quand je suis chez moi, je ne me sens pas en sécurité. Il y a des violences conjugales à la maison. » Ou « C'est beau d'être confiné, mais je n'ai pas de logement. » On a quelques salariés qui vivent dans une caravane ou qui n'ont pas de logement. Et puis d'autres qui nous disent « Mais moi, si jamais je n'ai pas de boulot, je tourne en rond. » Et du coup, ça va les renvoyer vers des addictions ou des ennuis de santé qui se complexifient. Et donc, en fait, on sent bien que le travail, c'est pas qu'une histoire de travail et de salaire, ça joue beaucoup dans le modèle économique familial. Mais c'est aussi se sentir utile, c'est aussi se sentir en sécurité, être dans un endroit qui nous fait du bien, qui soit porteur. Et c'est ça la réalité des salariés en parcours d'insertion, c'est ça qu'on essaye de créer et surtout de préserver à travers cette course contre la montre et ce défi de retrouver un modèle économique stabilisé.
Comment peut-on aider là maintenant ?
Alors aujourd'hui, ce qui est vraiment nécessaire, c'est deux choses. Si vous avez des besoins, il faut venir faire des achats, mais on ne voudrait pas pousser à un modèle de consommation alors qu'on n'a pas de besoin. L'autre solution, pour ceux qui en ont les moyens, c'est de faire un don à la ressourcerie, un don financier. Depuis 8 ans, la ressourcerie vit de dons d'objets en bon état, et jamais on n'avait appelé à l'aide sur le plan financier parce qu'on n'en avait pas eu besoin. Là, de manière tout assez exceptionnelle, sur la plateforme OKPAL, dont le lien se trouve sur le site de la ressourcerie ou sur la page Facebook, on appelle aux dons. Et il n'y a pas de petits dons, il y a eu des dons, y compris de particuliers, et je le sais même, de personnes en parcours d'insertion qui ont fait des dons de 1 ou 10 euros. Mais on sent bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et pour les salaires de la ressourcerie, c'est toute une dynamique qui est porteuse derrière d'encouragement. Même les petits mots sur Facebook sont un encouragement qui nous permet d'avoir du cœur à l'ouvrage et de nous tenir mobilisés face à ce défi.
Merci beaucoup Benoît, et pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne de la ressourcerie ou à aller directement sur le site pour acheter ou bien faire des dons.
Oui, on peut rappeler du coup le site internet, c'est tout attaché ressourceriedesbiscottes.fr, et la page de la ressourcerie, c'est pareil, ressourcerie des biscottes sur Facebook, sur les réseaux sociaux d'une manière générale. On sera heureux de continuer d'échanger avec vous.
C'est pour ça jodi jou, nous peut pas retrouver nous. C'est comme ça la vie là yé, toujours goumé pour exister. Si t'es à la Guadeloupe, mais c'est là nous trouver l'amour. Soleil la vie voilée, montagne la vie.
l'amour. Mettez-vous, mettez-vous bien.
De retour dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Edmonie Crater avec le titre « Mets-tu bien ». Et il est, quant à nous, déjà l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Ce soir, retrouvez le best-of de l'année du coureur de funk, suivi d'une rediffusion de Tagel Coubertin, une rediffusion de Scratch Fellas et enfin une nouvelle émission de La Mine. Très belle soirée sur nos ondes et à demain pour la dernière Covidienne de l'année. Très belle soirée à toutes et à tous.